Bonjour à toutes et tous, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec...
Je m'appelle Émilie, j'habite à Bourdeaux, dans la Drôme, et je fais partie du collectif Vers une sécurité sociale de l'alimentation à Dieulfi et alentour. Je fais partie de ce collectif depuis 2023. Je suis très contente de faire partie de cette aventure vers plus de démocratie dans l'alimentation.
Donc Lucie, moi j'arrive tout juste sur Dieulfi dans le cadre d'un stage de master en sciences sociales appliquées aux questions agricoles et alimentaires pour étudier l'impact de l'expérimentation de caisses alimentaires sur la capacité d'action collective.
Dans cet épisode, il sera question de transition écologique et solidaire, de vie démocratique et d'alimentation, d'accord et de désaccord, de projets concrets, de territoires et d'émancipation citoyenne, et puis de cotisations, de montants d'allocations et de critères de conventionnement. Et comme pour chaque épisode, d'alternatives. Bonne écoute.
Alors, je suis rentrée dans la sécurité sociale de l'alimentation à Dieulfi, dans un cadre professionnel tout d'abord. J'étais salariée d'une association qui gère un espace de vie sociale. Dans le cadre de cet espace de vie sociale qui était tout nouveau, il a fallu que je développe des axes de travail. Et il y en avait un qui me tenait particulièrement à cœur et qui résonnait avec la vie du territoire, c'était sur les transitions écologiques, citoyennes et solidaires. Donc c'est aussi un engagement de la CAF et de la Fédération des centres sociaux, avec qui on travaille en tant qu'espace de vie sociale, qui sont nos partenaires privilégiés. Et donc c'est dans ce... Voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré d'abord Camille Perrin, qui est élue à la municipalité de Dieulfi, mais qui est aussi l'une des fondatrices à Dieulfi de ce collectif citoyen. Donc c'est dans ce cadre-là, en fait, voilà, très rapidement, on a vu que ça collait au niveau des valeurs, au niveau des envies. Et eux, par rapport, enfin, ce collectif-là avait besoin aussi d'un soutien pour tout ce qui était éducation populaire et l'aller vers les habitants. Donc j'ai essayé de remplir ce rôle-là, notamment en organisant avec le premier salarié du collectif un temps de cuisine avec les bénévoles des Restos du Cœur à Dieulfi. C'était un temps super, super génial. On a distribué plus d'une cinquantaine de bocaux aux bénévoles et aux personnes accueillies des Restos du Cœur. Après, voilà, on a fait de l'aller vers aussi un quartier HLM, etc. Ça a plus ou moins bien marché, comme toutes les actions qu'on peut mener dans l'animation sociale, mais c'était plutôt chouette. Depuis novembre de l'année dernière, je ne travaille plus pour l'espace de vie sociale et je suis restée par contre bénévole, on dit participante, la sécurité sociale de Dieulfi et alentour. J'ai fait partie du groupe, on appelle ça des groupes locaux de Bourdeaux, puisque j'habite à Bourdeaux, et je fais partie du comité de pilotage de l'association. C'est un collectif que j'apprécie particulièrement et dans lequel je me sens bien, parce qu'il y a une vraie vie démocratique. C'est-à-dire que chaque personne est accueillie comme elle est, et on sait être en désaccord. Voilà, on sait gérer le désaccord, on sait gérer le conflit. J'y ai rencontré des personnes très chouettes, il y a une grande chaleur humaine. On est aussi dans l'opérationnel parce qu'on est sur un projet qui défend un projet concret sur un territoire rural, qui est celui de la communauté de communes Dieulfi-Bourdeaux, mais aussi qui défend de l'alimentation et tout le monde mange. J'ai travaillé dans l'alimentation, je suis passionnée de cuisine et de jardinage, mais aussi de cette émancipation citoyenne, d'utiliser le sujet de l'alimentation pour aider à, voilà, à émanciper les personnes, à émanciper les territoires, ça me parle beaucoup.
Mm-hmm.
Alors déjà, c'est un collectif qui est depuis le départ ouvert à tout le monde. Il y avait des assemblées citoyennes un dimanche matin par mois pendant 2-3 ans, où chaque personne qui arrivait, même si elle n'y connaissait rien, avait la même voix que les autres. Je trouve que c'est quelque chose qui est très très rare. On a arrêté les assemblées citoyennes en 2024 parce que c'était trop lourd à porter avec nos autres missions. Mais on a beaucoup travaillé sur la gouvernance. On a un comité de pilotage qui est très fonctionnel. La parole de chacun et chacune est prise en compte à égalité avec celle des autres, notamment nos salariés. Et nos stagiaires, quand nous en avons, ont la même voix. C'est-à-dire qu'on est vraiment horizontal et on tient à ce principe-là. Après, on a travaillé aussi sur la constitution d'un conseil local de l'alimentation. Donc, on a recruté sur la base du volontariat pour avoir un conseil d'à peu près une vingtaine de membres. On a fait attention à les sélectionner pour que ces personnes-là soient le plus représentatif du territoire en termes de déjà une parité de genre, aussi qu'on ait une grande variété de revenus, qu'on ait des compositions familiales assez variées, des personnes de profil le plus différent possible. Parce que ce conseil local de l'alimentation avait pour mission de prendre des décisions. En fait, avait la légitimité de prendre des décisions qui étaient importantes pour la constitution de notre caisse de solidarité alimentaire sur le territoire.
Qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision, par exemple ?
Déjà, il y a eu tout un temps de formation. Et puis après, ils ont travaillé sur les trois piliers d'une caisse de l'alimentation. C'est la cotisation, c'est-à-dire la grille de cotisation qui allait être utilisée pour la caisse, le montant de l'allocation, parce que dans la sécurité sociale de l'alimentation, tout le monde reçoit la même allocation, mais va cotiser selon ses moyens. Et aussi, ils allaient décider des critères de conventionnement. Comment on va se servir de nos allocations SSA pour acheter des produits, et ces produits, il faut qu'ils soient conventionnés. Il y a des critères pour ce conventionnement. Donc ils ont travaillé sur ça aussi.
C'est quel type de critères ? On conventionne les produits, ou on conventionne les producteurs, ou on conventionne les magasins, ou qu'est-ce qu'on conventionne en fait ?
Il était question de conventionner les produits. Au final, conventionner des produits, ça revient à conventionner des points de vente et des producteurs et des productrices. Les critères de conventionnement pour cette première version SSA sur notre territoire, c'est local et bio. Pour l'instant, on conventionne sur notre territoire des points de vente. Donc on appelle points de vente que ce soit des producteurs qui vendent en direct ou des magasins. Donc on a pour l'instant un magasin de producteurs et productrices, un magasin bio, une boulangerie, et on a de plus en plus là de producteurs et productrices en direct. Et après, ça va du paysan boulanger, l'éleveur de brebis laitières, de producteur de tisane, de miel. Voilà, ça, c'est assez varié, quoi. Alors, le CLA a décidé de ne pas conventionner l'alcool. Mais sinon, oui, c'est tout de l'alimentaire.
Sur la route en compagnie d'Émilie et de Lucie. On parle du collectif vers une sécurité sociale de l'alimentation. Retour aux entretiens.
Alors notre base géographique, c'est la communauté de communes d'Yeulefy-Bourdeaux. Donc c'est un territoire qui va de Labégude à Bourdeaux, puis après de Rochin-Secret à Poët-Laval. C'est un territoire assez vaste géographiquement. toutes les personnes qui veulent devenir cotisantes sont les bienvenues, en sachant que les points de vente conventionnés seront sur notre territoire ou à proximité de notre territoire. Pour cotiser, il faut aller sur le site internet qui est notrecaissealim.org, notre-caisse-alim.org, et il y a un formulaire de préinscription. Et ensuite, il faut prendre rendez-vous avec soit un bénévole, soit le gestionnaire salarié qui va finaliser l'inscription. Donc, comprendre à quelle cotisation on correspond, voir si en fait on peut un peu moins ou un peu plus. Le gestionnaire ou les bénévoles créent un accès à la plateforme, un compte sur notre plateforme technique. Après, disponible sur un téléphone portable, en fait sur un smartphone, on a une application et on peut aller faire nos courses avec.
C'est quoi ? C'est une somme ? C'est mensuel ? C'est annuel ? Comment ça marche ?
L'allocation, c'est une part, c'est 100 euros. Et pour les enfants, il y a des demi-parts ou des quarts de part. Et on prend aussi en compte si les enfants sont en garde alternée. Comment ça se passe concrètement? En fait, quand on a un smartphone, on va faire ses courses, par exemple au magasin de producteurs. On arrive à la caisse, on annonce qu'on veut payer avec la SSA. On allume son application, notre compte Alim. On sélectionne le point de vente. Et ensuite, on tape le montant de la note et on montre à la personne qui est à la caisse la confirmation de la validation. Et après, c'est bon, on n'a pas d'argent à annoncer. Quand on n'a pas de smartphone, il y a une forme différente où on avance le montant de ses courses et après, on est remboursé par la caisse.
Économiquement parlant, c'est viable comment ?
C'est viable par la solidarité. Les personnes qui ont les plus hauts revenus payent une cotisation plus forte qui compense les petites cotisations. Donc c'est vraiment organiser une solidarité de territoire. En ayant conscience que le prix de l'alimentation et la part de l'alimentation dans le budget n'est pas la même selon les revenus. Et c'est une forme très forte d'inégalité et c'est complètement injuste que les personnes les plus précarisées n'aient pas accès à une alimentation locale et de qualité. Parce que la SSA, c'est la solidarité entre les mangeurs et mangeuses et les producteurs et les productrices.
Solidarité, elle repose sur combien de personnes ?
C'est difficile à dire. Une petite quinzaine au Copil, en sachant qu'au Copil, on est les personnes les plus impliquées. Au Conseil local de l'alimentation, il y avait une vingtaine de personnes aussi. Après, on a un réseau de bénévoles, de sympathisants. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 150 personnes.
150 cotisants aussi ?
Alors, pour l'instant, comme on vient juste de lancer notre caisse, pour l'instant, on est une quinzaine à avoir fini l'inscription. Voilà, donc là, c'est le début. La caisse est petit en petit plus opérationnelle parce que bon, c'est une plateforme, tout est expérimental en fait. Donc tout est à tester, à retester, à consolider. L'idée, et puis bon, il faut aussi aller vers le conventionnement de plus en plus de producteurs, productrices et de points de vente, parce que on ne peut pas faire grossir le nombre de cotisants sans avoir d'endroits où ils peuvent mettre en place faire leurs achats. Donc, l'idée, c'est d'aller un peu tranquillement vers plus de cotisants, cotisantes et plus de points de vente aussi.
Dans cette expérience, il y a des choses que vous avez dû abandonner parce que ça ne marchait pas du tout, ou alors des super victoires, et des choses à développer encore ?
La SSA à Dieulefit est connue pour l'expérience du marché du lavoir. Le marché du lavoir, c'est le marché qui a servi de base à la SSA sur notre territoire et c'est un marché qui fonctionnait avec trois prix. Un prix juste fixé par les producteurs et productrices, un prix solidaire qui était à 125% du prix juste et un prix accessible à 65% du prix juste. Donc ces trois prix se sont étendus sur deux autres points de vente, au marché de Pont-de-Barré et au Fournil des Comètes, à Poët-Laval. Donc en fait, ça a duré quand même 2 ans, 3 ans. Les trois prix, ça a été une façon de commencer à mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation sur le territoire et de donner à voir cette solidarité-là. Mais le but, c'était vraiment de passer à une cotisation, parce que de toute façon, le but, notre collectif, il s'appelle « Vers une sécurité sociale de l'alimentation ». C'est parce que le but de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est la cotisation au niveau national sur nos salaires, comme la sécurité sociale de la santé. C'est pas de se cantonner à des citoyens et citoyennes volontaires sur un petit territoire. C'est vraiment une révolution, en fait, une révolution sociale par la cotisation.
À l'écoute de Sur la route, autour du sujet de la création d'une caisse mutualisée de l'alimentation. C'est maintenant Lucie qui va apporter son point de vue sur la question. Retour à l'entretien.
Donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le collectif donc, s'inscrit dans le collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation et donc mobilise un imaginaire politique qui est assez fort, qui est celui de la sociale de l'après-guerre. Et du coup, la question qui est posée par la recherche et en faisant ce travail immersif sur le terrain, c'est de venir voir comment cette expérimentation et la mobilisation de cet imaginaire, est-ce qu'elle permet de transformer les manières de voir et d'envisager les systèmes alimentaires et est-ce que ça aide les personnes collectivement à imaginer un système alimentaire qui soit hors du système capitaliste. En tout cas, voilà, ça vient questionner ça et donc l'idée c'est de voir un peu comment les imaginaires politiques sont bouleversés par cette expérimentation qui est une expérimentation collective.
Cette question politique et cette question démocratique, c'est quelque chose que vous abordez, j'imagine, au sein des collectifs. Ça réagit comment sur le terrain ?
Il y a beaucoup de caisses de solidarité alimentaire qui se créent dans la Drôme et c'est vraiment une bonne chose. Il y en a deux qui sont portées par des communautés de communes, une par la CCVD et une par la communauté de communes du pays autour de Die. Elles n'affichent pas la sécurité sociale de l'alimentation, parce que c'est très politique et c'est très engagé politiquement. Les élus de notre territoire sont plutôt frileux. C'est dommage, parce qu'on a un territoire qui est vraiment engagé dans les transitions, avec des élus qui font un travail fort. Voilà, le travail d'élus est souvent critiqué et c'est un travail qui est très très difficile. Hein. C'est un engagement très fort et où il faut avoir le sens du compromis. Et c'est vrai que parler de sécurité sociale de l'alimentation, il n'y a pas de compromis. Et puis comme disait Lucie, voilà, c'est à venir, c'est la transformation des systèmes agroalimentaires. À venir, c'est la transformation de la société en fait. C'est de penser à créer et valoriser des biens communs, des communs en fait, et sortir du capitalisme. Bon bah ça, est-ce que des élus locaux de petites communes sont prêts à investir frontalement ces questions-là ? Je pense que voilà, ça demande un engagement fort et puis peut-être une culture politique alternative aussi, qui n'est pas dans la gestion courante. Parce que malheureusement, les élus locaux, leur temps est beaucoup pris par la gestion des affaires courantes en fait. Et ils sont souvent très seuls par rapport à ça.
L'émission touche à sa fin, mais il nous reste tout juste le temps pour une dernière question.
Ça interroge aussi peut-être les producteurs et productrices qui ne sont pas forcément engagés dans des façons de produire bio. Est-ce que c'est des producteurs et productrices que vous avez pu contacter, intégrer? Est-ce qu'ils sont intéressés? Comment ça réagit aussi à ce niveau-là?
Alors, avec notre premier salarié en 2023, il y avait eu un groupe de travail sur le conventionnement qui avait commencé un gros travail sur ce sujet-là. Et il s'était éloigné du critère bio parce qu'il se disait oui, qu'il y a des producteurs et des productrices qui ne sont pas en bio, qui ne seront jamais en bio, mais qui travaillent très bien et qui sont précieux pour le territoire, ils sont à valoriser. Au final, ce n'est pas ce qu'a choisi le Conseil local de l'alimentation. Moi qui m'occupe pour Bordeaux un peu sur dans le contact et le conventionnement avec les producteurs et productrices, il y a des personnes que j'étais allée voir et qui ne sont pas en bio, qui auraient pu être intéressées et donc au final qui ne le seront pas. Donc voilà, déjà ça me questionne. Ce qui me questionne aussi, avoir le label bio, ça coûte aux producteurs et productrices, ça coûte en temps et ça coûte en argent. Il y a aussi que les aides sont de plus en plus minces. Avec voilà, ce qui se profile au niveau national et européen, le bio va être de moins en moins financé. Et il y a plein de producteurs et productrices qui ne vont plus avoir le label, en fait, parce que ça va leur coûter pour rien, quoi. Donc à ce moment-là, on sera caduque. En même temps, voilà, c'est le jeu, en fait, démocratique. Hein, on délègue le COPIL à déléguer une partie voilà, des décisions à prendre au Conseil local de l'alimentation. C'est le principe de la démocratie alimentaire et donc on joue ce jeu-là. Après, les critères de conventionnement peuvent changer, tout peut évoluer et on verra quoi.
Les gens qui font partie donc, de ce Conseil de conventionnement, c'est pareil, c'est des élections démocratiques. Comment ça fonctionne? Ils sont là?
C'est des personnes qui étaient volontaires et après, on les a sélectionnées en fonction de critères pour leur représentation. Après, on ne sait pas si on va continuer à organiser et animer un conseil local de l'alimentation, parce que c'est une aventure qui a été très intéressante pour notre collectif, pour ces 20 citoyens et citoyennes, mais c'est aussi quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie au détriment d'autres choses, notamment la mobilisation citoyenne, l'aller vers les producteurs et productrices. On ne peut pas, dans un collectif, surtout bénévole, on ne peut pas être partout. Donc voilà, il va falloir qu'on fasse le bilan de cette expérience-là et qu'on en tire les conséquences et qu'on invente autre chose, peut-être. Après, on reste dans intégrer tout le monde, c'est le but, mais on sait que c'est rare d'y arriver. D'arriver à une parfaite mixité sociale, culturelle, c'est fou! C'est une belle utopie. On a envie, c'est notre horizon. Mais déjà, il faut intéresser tout le monde. Et ça, voilà, notre projet n'intéressera pas tout le monde. Parce que manger bio et local, il y a des gens, ça n'intéresse pas du tout. C'est pas leur cadre de valeur. Et c'est tout à fait respectable. Après, je pense que le but, ça sera déjà d'intéresser vraiment les politiques. Les politiques et les institutions. Donc bon, il y a un projet de loi sur la sécurité sociale de l'alimentation. On va voir ce que ça va donner. Mais il y a vraiment voilà, intéresser les institutions, les politiques, et puis bon, continuer de travailler sur la mobilisation citoyenne. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est rien n'est jamais acquis. Il faut être très, très humble pour ça.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Émilie et à Lucie, aux oiseaux et aux enfants joueurs. Un entretien mené par Christelle Jacob de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grand. Pour en savoir plus sur ce projet de sécurité sociale alimentaire, rendez-vous sur le site notre-du-6-caisse-du-6-alim.org. Pour réécouter cette émission ou découvrir les émissions précédentes, rendez-vous sur le site résonance.media. Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.